Bonjour à tous et bienvenue dans Parole d'expert, une série audio d'entretiens courts avec un expert pour éclairer un phénomène, une situation particulière. Nous sommes aujourd'hui le 24 mars 2020, et c'est-à-dire que nous venons de tous vivre notre première semaine de confinement. Alors nous avons eu envie de demander l'avis à un expert pour qu'on puisse tous ensemble un petit peu réfléchir sur cette situation tout à fait inédite que nous vivons. Et nous avons souhaité donner la parole à Brigitte Munch, qui est psychologue psychothérapeute. Bonjour Brigitte.
Bonjour Marjorie.
Vous êtes spécialiste des questions relatives au développement affectif et en particulier chez l'enfant et l'adolescent. Et ce que j'aimerais préciser aussi, avant qu'on puisse passer avec ma collègue Maryse aux différentes questions qu'on a à vous poser, j'aimerais préciser que, avant d'être psychologue, psychothérapeute, vous avez commencé votre carrière comme enseignante de philosophie et que, de ce fait, vous connaissez bien le système éducatif de l'intérieur, mais que, dans le cadre de votre activité en cabinet libéral, vous avez aussi accès au point de vue des parents et à la réalité de leur quotidien tous les jours et particulièrement à ce qui se passe en ce moment pour eux.
Oui, tout à fait.
Bonjour Brigitte.
Bonjour Maryse.
Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, pouvez-vous définir la présence quand on est un parent ?
La présence quand on est un parent. Alors, la présence, ça demande déjà qu'on réfléchisse et ensemble à ce que c'est en général dans la vie. La présence, ça n'est pas seulement être là physiquement, c'est être là pour celui qui est là avec nous, avec toute notre attention et notre tendresse. Et c'est nous rendre disponibles, dans une disponibilité qui est une écoute du cœur. Si par exemple je suis avec quelqu'un et que je suis en train de jouer sur mon téléphone en disant « oui, je t'écoute, dis-moi », je ne suis pas vraiment présent pour l'autre. La présence, et ça ne sert à rien, une présence qui n'est pas une véritable disponibilité intérieure ne sert à rien, elle peut même être douloureuse. La meilleure image que je pourrais prendre de la présence, c'est la danse. Si vous avez déjà regardé danser un couple ou une ronde d'enfants, un couple qui danse le tango ou le rock, et que vous voyez quelquefois se dégager une synergie, une grâce qui fait qu'il y a un mouvement ensemble où plus personne ne dirige. Il n'y a pas quelqu'un qui se soumet et quelqu'un qui impose. Il y a un mouvement qui se met en place, qui est d'une très grande beauté et qui nous saisit dans un sentiment intérieur qui suspend le temps. Et souvent, on en garde une trace, d'ailleurs, quand on a vu dans des films ou dans la vie un moment comme ça, on en garde une trace très profonde. Qu'est-ce que ça nous apprend ? Ça nous apprend que le temps est élastique, il est subjectif, il dépend de notre vécu. Il y a des moments très forts qui laissent une empreinte très profonde et des moments qui, comme le disent les enfants, qui passent très vite et dont on ne garde aucune trace. Quand les enfants, par exemple, sont heureux, ils ont le sentiment que ce moment est très, très puissant et en même temps qu'il a été très bref. Donc dans ce temps de retrait de la vie active qui nous est imposé par le confinement, mais j'ai envie de dire qui nous est offert aussi comme une opportunité, il faut réaliser que c'est toute notre relation à l'espace et au temps qui est changée. Et je voudrais, si c'est possible, vous aider à voir comment on peut vraiment potentialiser, utiliser ces moments forts qu'on va vivre ensemble à la maison, parents et enfants et avec l'aide des enseignants, pour trouver cette synergie, pour inventer cette danse dans la confiance.
Justement, Brigitte, vous parlez de danse, vous parlez de couple. Dans cette période très compliquée où les parents sont confinés à la maison avec les enfants, comment pouvez-vous préciser davantage, comment peut-on être présent davantage avec ses enfants à la maison ?
Oui. En effet, le confinement a cette spécificité que l'espace est devenu beaucoup plus petit que d'habitude et le temps, à l'inverse, s'est élargi. Donc, c'est toute notre relation à la vie qui est transformée. Comment on peut en faire, au lieu d'une contrainte qui va nous pousser dans des crises supplémentaires à la grande crise à laquelle nous sommes confrontés, comment nous pouvons en faire une richesse ? Alors, effectivement, les parents sont dans des situations parfois difficiles où ils ont beaucoup de choses à gérer en même temps et ils ne sont pas entièrement disponibles pour leurs enfants. Alors, je peux vous proposer un certain nombre de pistes qui pourraient nous éclairer. La première chose qui est importante, c'est de rester présent au moment de vie spécifique, comme des moments de repas, des moments, les moments des devoirs évidemment, ou d'autres moments où l'enfant est en train de créer quelque chose, de découvrir quelque chose, ou de vivre un chagrin, etc. Au lieu d'essayer de structurer le temps en disant « non, là maintenant je ne peux pas, je suis en train de faire quelque chose à temps », sauf dans des moments où vraiment on ne peut pas faire autrement, c'est très important d'être capable de mettre de la souplesse et du lien, d'être dans une continuité. Il vaut mieux poser ce qu'on est en train de faire, c'est la chance quand on est à la maison, on peut le faire la plupart du temps, poser ce qu'on est en train de faire, se rendre vraiment disponible à ce moment particulier qui est en train de se vivre, avec son cœur, le partager avec l'enfant, s'émerveiller d'une création qu'il est en train de faire, accueillir une peine ou un moment de colère, et ensuite revenir à ce qu'on était en train de faire. Et on s'aperçoit que les enfants puisent un très grand sentiment de sécurité quand on arrive à faire ça, et du coup, dans les moments qui suivent, ont une meilleure autonomie. Un autre point qui est important, c'est transformer l'inquiétude. L'inquiétude de faire ceci, de faire cela. Beaucoup de parents, j'entends, me disent « mais on ne va pas réussir à tout faire ». Essayez de transformer cette inquiétude, cette peur de ne pas en faire assez, en un temps d'intériorisation. Ce qui va compter dans ce temps de confinement, ce n'est pas tellement une acquisition et une conquête des connaissances, etc. C'est plutôt un temps d'intériorisation des relations et des savoirs qui sont déjà acquis. Donc, on va revisiter ce qu'on a déjà vécu. Ça suppose un changement de perspective. Donc, j'aimerais beaucoup aider parents et enseignants à ne pas avoir peur de ne pas en faire assez ou de perdre quelque chose. La peur, ça donne des mauvaises habitudes et c'est extrêmement contagieux, beaucoup plus encore que le virus. Ce qui est très important, c'est créer une confiance et ensuite faire appel à cette fameuse synergie du faire ensemble. Les enfants sont des magiciens de la créativité. Il faut leur donner la parole et inventer avec eux une solution. Comment tu crois qu'on pourrait faire pour que ça se passe bien ? Moi, je n'ai pas envie, j'ai envie d'être près de toi, je n'ai pas envie que ça se passe mal. Bien, on va chercher une solution pour que ça se passe bien. Et prendre le temps, s'il le faut par exemple, de différer ce qu'on est en train de faire en disant « non, non, moi je ne veux pas le faire maintenant dans le conflit. On attend, on va trouver une solution. Je suis sûre que tu vas me trouver des idées avec moi pour transformer ce moment en un moment de partage. » Enfin, j'ai envie de dire, mais ce sont des premières pistes, on pourra approfondir, j'espère, par la suite, c'est mettre de la beauté dans nos partages. C'est très facile, beaucoup plus facile qu'en temps normal, où on est très contraint par le temps, de prendre le temps de chanter, de prendre le temps de danser, de prendre le temps de faire de la gym avec les enfants pendant 5 minutes, entre 2 moments de travail sur son ordinateur, etc. De jongler avec la vie pour remettre de la joie, de la poésie, de la musique. C'est-à-dire tout ce qui fait appel à notre autre cerveau, celui de la créativité, de l'émotion, de la tendresse, du sentiment. Si on peut nourrir notre vie affective par des transitions de ce type, la présence des parents devient un émerveillement pour les enfants. Et ça peut créer une confiance qui n'existait pas auparavant. Ça peut même être réparateur de relations qui sont distendues par les contraintes de travail professionnel et le taux de disponibilité qu'on a habituellement.
Brigitte, vous nous avez parlé du lien là qui peut effectivement se réparer, du lien qui peut être différent dans la famille, entre les enfants, leurs parents. Maintenant, moi, j'ai envie de vous poser la question du point de vue des enseignants. Les enseignants, comment est-ce qu'ils peuvent, à distance, être présents pour leurs élèves dans ce contexte? Et d'après vous, qu'est-ce que ça peut être leur rôle dans cette situation-là?
Alors, je crois que le rôle des enseignants est extraordinaire dans tous les sens du terme dans ce moment-là, parce qu'il est totalement transformé. Habituellement, encore une fois, vous voyez que ce qui a changé, c'est la relation à l'espace et au temps. Habituellement, c'est le contexte de la classe qui normalise les relations entre les enseignants et les enfants, et les familles les parents sont à l'extérieur de l'école. Même s'ils y participent un petit peu, ils sont quand même globalement beaucoup à l'extérieur. Ce contexte de classe, il nivelle les enfants. Les enfants arrivent sont pendant la journée, quand ils sont à l'école, tous dans la même situation. Alors que là, maintenant que les enfants sont à la maison, il y a des spécificités liées à leur vie familiale qui reprennent beaucoup de place. Le rôle des enseignants va être donc transformé, plus que de rester fidèle à un rythme d'acquisition des connaissances, même si ça reste leur fonction. Je crois que ce qui va être très important, c'est qu'ils soient capables de créer le lien avec chacun, de telle manière que l'enfant ou l'adolescent a le sentiment que l'enseignant se soucie de lui, garde le contact avec lui. Ça permet de personnaliser les relations et de porter attention à des choses qui ne s'expriment pas habituellement. Par exemple, la façon dont l'enfant vit son travail, la manière dont il y met de la créativité, s'il a envie de faire des recherches un peu plus poussées sur un sujet, la manière dont il exprime aussi son vécu. La vie à la maison en famille n'est pas toujours facile, quelquefois il y a des conflits. Dans quelle mesure l'enseignant reste un lien? Vous voyez, dans cette situation, en fait, l'enseignant va être le seul contact extérieur structuré. Les grands-parents, on les a au téléphone, mais il n'y a aucune obligation, la famille, on ne la voit pas. L'enseignant va être le seul contact régulier, structuré, et il peut devenir un appui, alors qu'il était quelquefois une contrainte. Moi, je suis très frappée d'entendre beaucoup d'enfants et d'adolescents qui prennent conscience combien l'école leur est précieuse en ce moment, alors que chaque matin, ils disaient « Oh là là, il faut se lever, il faut aller à l'école ». Aujourd'hui, ils disent « Mais qu'est-ce que ça nous manque de se retrouver ensemble dans un autre espace-temps, etc. » Que l'enseignant tisse le lien de complicité. Et c'est une chance merveilleuse avec les parents, avec l'enfant ou l'adolescent, et dans un but commun, c'est que ce temps de confinement permette de transformer les apprentissages, de sédimenter en profondeur les savoirs fondamentaux. Je voudrais aussi essayer d'aider les enseignants à ne pas avoir peur, de ne pas en faire assez. Beaucoup de parents, beaucoup d'enfants aussi sont un petit peu effrayés parce que quand il y a beaucoup, beaucoup de contenu, ils ont peur de ne pas pouvoir répondre à la demande. Dans certaines familles, il y a un seul ordinateur pour 4 enfants, ils n'y ont pas accès facilement. La connexion n'est pas toujours simple non plus, etc. Je crois que ce qui est vraiment important, c'est d'offrir l'occasion de ne pas être angoissé, d'être confiant dans le fait que les enfants vont pouvoir, avec le soutien des enseignants, vont pouvoir sédimenter, intérioriser les savoirs, les enseignements, de telle manière qu'ils vont pouvoir les relier à leur vie, à leurs questions profondes sur la vie, et du coup, en faire quelque chose de l'ordre de la créativité.
Alors, Brigitte, vous nous avez parlé tout à l'heure, quand on a évoqué la présence, vous nous avez parlé d'une danse, de quelque chose qui pouvait être vraiment harmonieux entre les personnes qui sont présentes l'une pour l'autre. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que, d'après vous, cette situation qu'on est en train de vivre, là, vous nous avez parlé des enseignants, on a parlé des parents tout à l'heure, est-ce qu'il pourrait y avoir une danse à trois? Les parents, les enfants qui sont des élèves pour les enseignants. Est-ce qu'il peut y avoir, d'après vous, une danse à trois entre ces trois pôles-là qui sont nécessairement reliés et même à distance dans cette situation qu'on vit en ce moment?
Je ne sais pas dans quelle mesure ça sera possible pour beaucoup de personnes. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est notre défi. C'est notre défi du moment, dans un moment... qui est un moment de désenchantement par rapport à toute notre foi dans la société technologique et moderne, on peut réinventer un enchantement du monde si on fait ensemble dans cette synergie. C'est notre défi, et c'est un magnifique défi que de créer un véritable trio. Ce temps-là de confinement, il est très étrange, vous savez, pour les enfants, parce que toutes les habitudes sont bouleversées. Par exemple, pour les petits, les liens sociaux ne sont pas encore vraiment construits, et donc, ce sont les liens affectifs qui comptent. Et pour les adolescents, c'est la même chose. Les liens affectifs sont extrêmement importants avec leurs copains, mais aussi avec leurs enseignants. Le rôle de l'enseignant va être donc de tisser avec les parents un lien qui fait qu'il va soutenir la possibilité pour les parents d'être confiants dans la manière d'accompagner l'enfant ou l'adolescent dans ce qu'il a à faire. Ça suppose, comme on l'a dit tout à l'heure, beaucoup de créativité. J'ai envie de dire que les parents et les enseignants ont l'occasion de s'associer pour être à l'écoute des besoins des enfants et de leurs possibilités. C'est l'humanité de ce métier qui reprend la première place. Donc ça suppose de sortir des injonctions et encore plus des menaces de ne pas avoir fait, de ne pas avoir fait assez bien, de risquer les mauvaises évaluations, etc., pour s'intéresser à ce que chacun peut apporter. Ça suppose de faire appel à la créativité, d'écouter les initiatives, d'inventer des manières d'apprendre différentes, en chantant, en proposant des contes, d'aller dans le sens de l'intérêt de l'enfant plutôt que dans le sens des obligations, de délaisser certaines formes d'apprentissage imposées pour créer des demandes de la part des enfants. Les enfants et les adolescents, quand on les écoute vraiment, ont énormément à dire aux adultes sur ce qui les passionne. Pourquoi ne pas se saisir de ce moment pour faire appel à cette capacité? Et là, les enseignants et les parents vont être complices. Et puis enfin, une dernière chose qui me paraît importante, c'est qu'ils s'entraident pour que l'angoisse disparaisse. Je pense qu'en ce moment, il y a déjà beaucoup d'angoisse autour des questions vitales. Je crois que c'est très très important qu'on s'entraide à ce que l'école ne soit pas source d'angoisse. Qu'on ne nourrisse pas les relations parents, enseignants, enfants d'inquiétude. Parce qu'on sait aujourd'hui, les neurosciences le confirment, que ça bloque notre intelligence. Plus les enseignants sont dans le plaisir de partager leur savoir, sont dans le plaisir d'écouter ce que les enfants questionnent, demandent ou la manière dont ils s'approprient les savoirs, sont dans l'écoute de l'inquiétude des parents et réussissent à transformer cette inquiétude dans la confiance dans leur enfant, à transformer cette inquiétude dans le fait que non, en quelques semaines, les enfants ne perdront pas les acquis fondamentaux. C'est un fantasme, ça n'est pas vrai. Au contraire même, pendant longtemps, on croyait qu'il fallait absolument tous les jours apprendre pour pouvoir entretenir notre mémoire. Les neurosciences nous apprennent que c'est faux. Ça n'est pas en apprenant toujours plus qu'on y arrive, mais c'est plutôt en ayant des temps de respiration où on fait des pauses, on intériorise, on rêve, on chante, on pense à autre chose et tout à coup ça revient. Un grand mathématicien régional, Henri Poincaré, quand il ne trouvait pas la solution à ses équations, partait marcher dans la forêt. Et c'est dans la forêt, quand il avait totalement oublié la question de ses équations, que tout à coup, eureka, une idée lui venait, il se dépêchait de rentrer chez lui pour noter l'idée. Et nous vivons tous ça le soir, la nuit, dans nos rêves. Eh bien, moi je crois qu'en ce moment, les enseignants et les parents peuvent être véritablement complices auprès des enfants pour créer ce monde où nos deux cerveaux coexistent et travaillent ensemble au service de la joie de découvrir, d'apprendre, de créer, d'inventer, de comprendre en profondeur.
Un très grand merci Brigitte pour tous ces apports et puis on le voit à travers vos propos, qu'on soit parent, qu'on soit enseignant, vous l'avez dit, il y a un grand défi à relever ensemble, il y a des liens à tisser, à retisser pour découvrir cette présence. Et puis justement, bah voilà, cette présence, nous aurons beaucoup de plaisir à vous retrouver prochainement dans oui. d'autres rendez-vous pour aborder voilà, d'autres thématiques. Vous avez commencé d'évoquer la créativité, comment est-ce qu'on peut donner du sens à ce qui se vit à la maison, la solidarité à la maison, oui. à l'école, les rythmes. Alors, on se dit rendez-vous très, très vite. Merci à vous, Brigitte.
Allô,
merci, Marjorie.
Oui. Merci Maryse et merci Brigitte pour tous ces éléments très éclairants.
Je voulais simplement dire encore aux parents, aux enseignants, écoutez les enfants, ils vont être nos maîtres car ils ont énormément d'idées. Écoutons-les aussi nous apprendre. Et merci de votre confiance.